Jeudi 5 septembre 2024, vous écoutez 102.3 FM. Auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue à ce bulletin de nouvelles dont l'accent est mis sur l'éducation. Je suis Arlette Josue en équipe avec ma collègue Valérie Montreuil. Voici les grands titres de cette édition.
Mesdames et messieurs, bonjour. Profilage racial par ses policiers, la Ville de Montréal condamnée. La Cour supérieure du Québec condamne la Ville dans une action collective. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, dit quitter la tête haute. 1001 logements sociaux et abordables seront construits au Québec grâce à la création d'une voie rapide pour les développeurs qualifiés. Victoire des proches d'un homme qui a tout légué à sa fiancée qu'il n'avait jamais vue. Mesdames et messieurs, nous vous avons aussi préparé des actualités internationales, mais avant les détails, voici l'éditorial présenté par le directeur général de Radio Centre-Ville, M. Wanex Lalanne Zéphir.
Colonisé par différentes puissances européennes comme l'Espagne, Royaume-Uni, France, Nouvelle-France, le territoire américain s'est développé petit à petit. En 1776, après la guerre de l'indépendance qui a été victorieuse, les États-Unis allaient être nés avec le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, Rhode Island, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Plus tard, le territoire s'est élargi avec l'achat de la Louisiane et de l'Alaska. Depuis lors, ce pays n'arrête pas d'étonner le monde, allant de surprise en surprise. Développé très rapidement avec l'arrivée massive des immigrants européens au 19e siècle, les États-Unis est devenu, après la Première Guerre mondiale, la plus grande puissance mondiale. Considéré encore comme tel, les États-Unis présentent plusieurs facettes. Un pays d'immigration. En 2015, on dénombrait 48 millions d'immigrants aux États-Unis, soit 15% de sa population totale. Pays de restriction, ces 15% ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême de l'État. En d'autres termes, la présidence n'est pas pour ces 15%. Il faut être de la troisième ou de la deuxième génération. C'est ce qui a permis à M. Barack Obama d'être élu président en deux fois. Un autre visage des États-Unis, c'est un pays raciste. Le racisme, qui est une institution, accordait aux Américains blancs des droits et des privilèges non accordés ou tout simplement refusés aux Amérindiens, aux Afro-Américains, aux Asio-Américains et aux Latino-Américains. Les Euro-Américains, en particulier les Anglo-Américains, sont privilégiés par la loi. États-Unis, pays où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes. Les femmes peuvent avoir les mêmes emplois que les hommes. Elles peuvent être élues sans aucune restriction. Donc, qu'est-ce qui aurait empêché à la candidate démocrate, Mme Harris, d'accéder à la présidence américaine? Elle est née le 20 octobre 1964 en Californie, aux États-Unis. Donc, elle n'est pas une immigrante de première génération. Elle a seulement 59 ans, donc pas trop âgée, contrairement à Joe Biden. Elle peut mener le pays à bon port. Les Américains ont déjà voté un noir au pouvoir, Barack Obama. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, mais une femme noire d'origine asiatique a-t-elle la même chance qu'un homme blanc? Il n'est écrit nulle part aux États-Unis, pour ne pas dire nulle part en Occident, qu'une femme noire ne peut pas accéder à la présidence d'un pays. Donc, Mme Harris est bien placée pour faire l'histoire. Elle va être, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, la première femme asiatique noire à être élue présidente aux États-Unis. C'est ce que souhaite d'ailleurs Radio Centre-Ville. Toutefois, ce souhait est conditionnel. Il faut que Mme Harris promette de tout faire pour que les Palestiniens puissent recommencer à vivre. Il faut que l'Occident, en particulier les États-Unis, arrête de se servir de l'Ukraine pour attaquer la Russie. Il faut que l'administration américaine invite la France à lever son genou sur le coût de certains pays de l'Afrique. Il faut que la politique indivisée pour régner soit abandonnée. Il faut que toutes les couches sociales soient traitées de façon équitable. En un mot, il faut que les droits de tous les humains soient respectés. Ces conditions traduisent l'importance de vrais changements dans le monde. Il ne suffit pas de choisir un candidat pour son genre ou pour sa couleur, mais pour ce qu'il peut apporter de concret de la société. Il nous faut des leaders pour qui les intérêts de la majorité priment sur ceux de la minorité. Des leaders pour qui le bien-être collectif a le dessus sur celui de l'individu. En ce sens, les États-Unis se trouvent face à l'histoire. Les électeurs vont devoir faire appel à leur raison. Que la meilleure gagne.
La ville de Montréal est directement responsable du profilage racial par ses policiers et devra elle-même dédommager ceux qui en sont victimes, a tranché une juge dans une décision qui pourrait coûter des dizaines de millions de dollars aux contribuables. Enfin, le combat a été âpre, mais enfin, on a un jugement qui dit que le profilage racial n'est pas juste une vue de l'esprit, mais que ça existe et qu'il est temps que ça cesse. S'est exprimé au Journal de Montréal, Maître Papa Mike Diomande. L'avocat commentait sa victoire contre la ville de Montréal qu'il poursuivait dans le cadre d'une action collective initialement évaluée à 171 millions de dollars au nom de toute personne racisée ayant subi ce genre de pratique illégale. Les détails avec TVA Nouvelles.
Le jugement de la Cour supérieure est tombé et la ville de Montréal a une part de responsabilité dans le profilage racial que feraient certains de ses policiers. On va décortiquer cet important jugement avec Michael Nguyen, spécialisé en affaires judiciaires au journal. Salut, Michael.
Salut, Jean-François.
Ça fait longtemps qu'on parle de profilage racial. Le SPVM a tenté d'apporter des correctifs dans la façon de travailler de ses policiers, mais c'est un jugement majeur qui vient d'être rendu hier.
Exactement. Donc, la juge Dominique Poulain, qui reconnaît l'existence du profilage racial et du racisme systémique et qui conclut que la ville de Montréal est responsable de l'agissement de ses policiers et donc qui devra payer.
Bon, et là, donc, il y a un cas type, celui d'un homme qui a été arrêté en août 2017, un homme noir qui est arrêté à cause de la couleur de sa peau et pourrait se joindre à lui, donc, des milliers de personnes qui auraient été victimes d'interpellations comme ça.
Exactement. Donc, c'est le cas d'Alexandre Lamontagne. C'est un travailleur qui n'a rien à se reprocher, qui sortait des bars en août 2017. Il se fait interpeller par des policiers. Les policiers, eux, ce qu'ils ont prétendu, c'est qu'ils voulaient juste vérifier s'il avait besoin d'aide. Mais ça s'est quand même terminé avec Alexandre Lamontagne cloué au sol, un genou sur la nuque, comme un certain événement aux États-Unis dont on se souvient tous. Il finit en cellule et il finit par sortir avec trois contraventions, une accusation criminelle. On parle de ne pas avoir marché sur le trottoir, d'avoir fait du bruit. Donc on voit, c'est vraiment un cas de profilage racial. Il a décidé d'intenter une action collective. Donc ce qui est particulier, c'est qu'il n'a pas intenté une poursuite en son nom pour avoir un dédommagement. Mais il l'a fait au nom de toutes les personnes qui pourraient avoir été victimes de profilage racial. Et selon des données du SPVM, on parle de, en 2017-2021, 40 000 personnes qui ont été interpellées qui sont racisées. Dans ce groupe-là, est-ce que c'est du profilage racial? Dans tous les cas, sûrement non. Mais on parle quand même d'un dédommagement de 5 000 $ par personne qui ont fait l'objet de profilage dans cette période. On parle de dizaines et de dizaines de millions de dollars.
Donc, c'est une facture très, très, très salée. Et donc, tous les gens qui se reconnaissent dans cette situation, qui pensent avoir été victimes, effectivement, de profilage racial, peuvent dire, ben moi, je réclame des dommages.
Exactement. Puis, d'une certaine façon, ils font un peu répondre à l'appel de la mairesse Valérie Plante lors du procès. Parce qu'elle est allée, elle est venue témoigner en 2023 pour reconnaître l'existence du racisme systémique en disant qu'il y a un problème réel, mais que la ville travaille très fort. Elle dit que c'est dit, c'est complexe. Et les avocats, ce qu'ils plaidaient, c'est que oui, il y a un problème, mais que c'est chaque personne qui devrait y aller individuellement parce que c'est difficile justement d'évaluer. La juge a fait non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Il faut le reconnaître et ça a créé beaucoup d'émotions dans le milieu. Hier, j'ai parlé à Maître Diomande qui a mené l'action collective. On sentait l'émotion dans sa voix. Jackie Eric Salvan également. T'sais, il dit que c'est un peu la première fois. Puis au-delà du montant, oui, on parle de dizaines de millions de dollars, même si pour chaque individu, on parle de 5 000 dollars. Donc c'est un montant beaucoup plus modeste, disons. Mais c'est d'avoir enfin la justice parce que le racisme, c'est pas depuis hier qu'on en parle, ça fait des décennies qu'on en parle.
Pierre-Fritz Gibbons dit qu'il était la tête haute quand on sent qu'on n'a plus le même enthousiasme malgré les projets super intéressants. C'est peut-être le temps de partir et de laisser la place aux autres, a soutenu M. Pierre-Fritz Gibbons mercredi pour justifier sa démission au beau milieu de son mandat. La politique, c'est une aventure extraordinaire. De loin, le métier le plus stimulant de sa carrière, mais la motivation n'y était plus depuis 2 ou 3 mois. Disons que je sentais un certain déclin pour aucune raison spécifique, a-t-il affirmé en conférence de presse aux côtés du Premier ministre François Legault. J'aurais souhaité qu'il termine son mandat à partir du moment où il me dit « j'aimerais quitter en décembre ». Je pense que par transparence, il fallait le dire et ça devient difficile au niveau de la légitimité quand on annonce qu'on s'en va éventuellement. Je n'étais pas confortable avec ça, d'avoir quelqu'un qui part dans 4 mois, a expliqué le Premier ministre. Il lui a demandé de démissionner dès maintenant, juste avant la rentrée parlementaire la semaine prochaine. Il a fait valoir que quand on est en politique, il faut être motivé à 100%. Le départ du super ministre a été scellé lundi. C'est le temps pour moi de passer à autre chose, a ajouté M. Fitzgibbons. Mais passer à quoi? De certitude, il ne sera ni lobbyiste ni commentateur dans les médias. Voici la déclaration de Pierre Fitzgibbons suivie par le Premier ministre François Legault.
Je quitte aujourd'hui la tête haute, puis clairement avec le sentiment du devoir accompli. Je suis venu ici, le devoir que j'avais, on avait établi avec le premier ministre, était multiple. La politique, c'était une aventure qui était extraordinaire pour moi. J'ai dit publiquement, ça a été de loin le métier qui m'a le plus stimulé dans ma carrière. Ça m'a permis de rencontrer des milliers de chefs d'entreprise, des travailleurs partout au Québec et en fait partout dans le monde. J'ai aussi rencontré des milliers de citoyens. Les Québécois, je pense qu'on est vraiment un peuple généreux, fascinant et clairement intéressant.
Je pense que le Québec a été chanceux d'avoir Pierre comme ministre pendant 6 ans. Et les résultats sont là. Pierre a livré la marchandise. Vous savez comment ça a toujours été important pour moi de réduire notre écart de richesse et avec l'Ontario et avec le reste du Canada. Bien, Pierre a réussi. Les chiffres le prouvent.
Les gouvernements du Canada et du Québec participent à la création d'une voie rapide pour accélérer les mises en chantier de logements abordables partout au Québec, dont 1001 unités sont annoncées le 30 août et seront construites rapidement. Le nouveau modèle d'affaires consiste à soutenir financièrement des projets de logements abordables portés par des groupes de développeurs expérimentés et reconnus pour leur efficience par la Société d'habitation du Québec. Concrètement, la Société d'habitation du Québec accordera le statut de développeurs qualifiés à des promoteurs ou à des organismes afin qu'ils puissent procéder à la mise en chantier de leurs projets plus rapidement. Pour ce faire, la SHQ prévoit un allègement administratif important lors d'une demande financière pour la construction de logements abordables, soit écourter l'étape de la qualification du demandeur. Animée par la volonté d'agir rapidement, la SHQ a déjà identifié des promoteurs dont l'obtention du statut de qualification se ferait promptement. Le statut développeur qualifié est une solution complémentaire au programme d'habitation abordable Québec. Elle offre davantage de flexibilité à la SHQ pour que lève de terre des projets ayant un grand volume de logements à travers la province. La société de développement Angus est la première à faire partie de la filière de développeurs qualifiés de la SHQ. Elle reçoit une subvention de près de 193,5 millions de dollars pour construire 1001 logements neufs, dont 677 verront le jour à Montréal et 324 à Rimouski. Cette aide financière correspond à environ 50% des coûts estimés pour réaliser ces logements dont l'abordabilité sera assurée pour un minimum de 35 ans. Le financement découle en partie du 900 millions du gouvernement fédéral versé au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le fonds accéléré, la construction de logements et des nouveaux investissements de 900 millions de dollars annoncés par le Québec lors de sa mise à jour économique de l'automne 2023. La ville de Montréal et la ville de Rimouski contribueront au projet développé sur leur territoire respectif. Pour l'accompagner dans le financement de ces projets, la SDA a choisi de se tourner vers le mouvement Desjardins, lequel fournira une somme d'environ 180 millions sous forme de prêts. Victoire des proches d'un homme qui a tout légué à sa fiancée qu'il n'avait jamais vue. Les proches d'un homme de Moncton qui avait légué plus de 650 000 dollars à sa fiancée qu'il n'avait jamais vue obtiennent gain de cause devant les tribunaux. Une juge tranche qu'il a été victime d'influence indue et invalide son dernier testament. Louis Fournier, détenteur d'un doctorat de Harvard et ancien professeur de français à l'université de Moncton, s'est éteint dans son appartement en décembre 2021 à l'âge de 73 ans. Au cours des années précédentes, il s'était isolé de ses proches et souffrait de problèmes de santé mentale. Il se disait victime de harcèlement électromagnétique et était allé jusqu'à dormir avec un chaudron sur la tête pour bloquer les ondes transmettant des voix dans sa tête. Lorsqu'il est décédé, il a légué tous ses biens à sa fiancée, une britanno-colombienne nommée Marie Lamont, qu'il avait rencontrée sur un forum en ligne conspirationniste. Au cours des mois suivants, l'amie et exécutrice testamentaire de Louis Fournier, René Ruez, a eu des doutes sur ses habiletés mentales. Lorsqu'il a écrit la dernière version de son testament, elle s'est tournée vers la justice pour savoir comment elle devait liquider ses actifs. Cela a mené à une lutte longue et complexe devant les tribunaux à laquelle ont participé Marie Lamont, René Ruiz, ainsi que la nièce et deux frères de Louis Fournier. Lutte dont le premier chapitre s'est récemment terminé en cour du banc du roi. N'eût été les délires de Louis Fournier, il n'aurait pas déshérité sa fille, d'autres membres de sa famille ainsi que des amis. Il n'aurait pas légué tout c'est bien Marie Lamont. Elle ajoute que Marie Lamont n'est pas l'instigatrice des délires de Louis Fournier, mais qu'elle les a alimentés et encouragés, notamment en lui disant qu'il risquait d'exposer ses proches au harcèlement électromagnétique s'il se trouvait en sa présence et que les médecins ne pouvaient pas l'aider. La décision a été portée en appel par Marie Lamont. Le 29 août, la cour d'appel du Nouveau-Brunswick a appuyé sur pause et suspendu l'exécution du jugement de la juge Amont en attendant qu'elle se penche sur le dossier. Louis Fournier n'avait pas vu une photo de sa fiancée lorsqu'il lui a dit qu'il avait l'intention de déménager en Colombie-Britannique. Marie Lamont a catégoriquement refusé l'étude de la décision de la juge Amont. En juillet 2019, Louis Fournier a envoyé un courriel à son frère pour lui dire que les assauts électromagnétiques sont devenus particulièrement violents et douloureux et qu'il venait de finaliser son testament. C'est dans ce document qu'il a légué tous ses biens à Marie Lamont et annulé les documents précédents dans lesquels il léguait de l'argent à des associations et à des proches. Quelques semaines plus tard, il a dit à son frère qu'il craignait d'être handicapé ou même tué par les ondes. Dans ce courriel, il a ajouté que la situation empirait et que Marie Lamont lui avait indiqué qu'il y avait eu des morts et des suicides parmi les victimes de harcèlement électromagnétique. Selon la juge Maya Amou, ces commentaires de la part de Marie Lamont ont poussé Fournier à préparer les documents testamentaires. Elle a tranché qu'il s'agissait d'une forme d'influence indue. Mesdames et messieurs, voici la page internationale de notre radio-journal qui vous sera présentée par ma collègue Valérie Montreuil.
Explosion des passages vers les États-Unis. Le nombre de traversées illégales du Canada vers les États-Unis bat tous les records. Radio-Canada est passé plusieurs jours dans le nord de l'État de New York pour observer cette nouvelle réalité qui exaspère les autorités et les résidents locaux. Voici le reportage de Radio-Canada.
On est au nord de l'État de New York, à quelques mètres à peine de la frontière canado-américaine. Le major Nicolas Léon coordonne une unité d'intervention dans cette zone où les passages clandestins se multiplient. Pour une rare fois, la police américaine a accepté d'emmener un média dans cette zone, habituellement paisible, remplie de forêts et de champs faciles à traverser, qui est devenu le terrain préféré des passeurs et de leurs clients venant du Canada. Au bord de ces routes de campagne et de ces champs, on retrouve d'ailleurs des chaussures, des vêtements et des bouteilles d'eau abandonnées.
What do you notice?
It's come from Quebec.
Yeah.
In French.
Yeah. It's garbage here in the States.
Il est un peu plus de 4 heures du matin. Le soleil ne s'est pas encore complètement levé tout autour du village de Moorse, qui est collé à la frontière. Alors que la population locale dort encore, des migrants sortent tranquillement des bois. Devant nous, plusieurs groupes de quelques personnes, toujours très jeunes. Personne ne parle anglais.
You don't speak English?
No.
Indy.
Certains appellent même le 911. Rapidement, ils se font arrêter sans aucune résistance. Leur but, nous a-t-on confié, serait d'être pris en charge rapidement et amené dans la grande ville la plus proche avant d'être libéré dans la journée. Depuis le début de l'année, le nombre d'interceptions faites par les agents américains à la frontière avec le Québec a augmenté de manière vertigineuse. passant d'environ 600 en janvier à près de 3000 selon nos informations pour le seul mois de mai, principalement des personnes d'origine indienne.
I think it's going to get much much worse before we end up with a plan that can get it back in control.
Selon le shérif de la région, ce sont des groupes criminels qui sont derrière ces passages clandestins.
It's no secret your cartels are helping a lot of people get into the country. What are they doing that for? Just to be nice? That's a business organization. So they're doing it to make money.
Mais la hausse spectaculaire de ces passages clandestins n'inquiète pas que la police et les autorités américaines. De nombreuses familles, des résidents américains sont de plus en plus inquiets et exaspérés de voir des migrants traverser leurs propriétés.
So yeah, right through here is where we typically see them come out.
Heather a construit sa maison ici à Moores il y a quelques années pour élever ses trois jeunes enfants. Le Canada est tout juste derrière son jardin. Elle est donc aux premières loges de ces passages clandestins.
Multiple times a day, we'll see people crossing on our property. Just a scary situation for the kids. You certainly hear about the southern border being an issue. It's certainly becoming a northern border issue now at this point.
Yeah. Janet McFretridge est la mairesse du village de Champlain, l'un des plus touchés par ce phénomène. Il y a quelques années, elle distribuait avec d'autres bénévoles des tuques et des peluches aux familles en détresse qui arrivaient au Canada par le chemin Roxham. Mais la situation et l'opinion des gens de son village ont désormais radicalement changé.
There's a general fear. People are afraid.
Elle craint maintenant une tragédie et qu'un jour, la situation dérape.
It's an issue of public safety.
Dans ces secteurs plutôt démocrates, plusieurs nous ont confié vouloir voter pour Donald Trump et certains l'affichent ouvertement.
We have enough. It's a mess. It wouldn't be the way it is if Trump stayed in.
Pour Hugh, seul le candidat républicain pourrait stopper ces passages clandestins.
Well, I believe he's the man we need in office to stop this.
Avec l'été à venir, rien n'indique que le nombre de ces passages clandestins provenant du Québec devrait diminuer.
BRICS. La Turquie a soumis une demande d'adhésion au bloc des pays émergents. La Turquie, qui est aussi un État membre de l'OTAN, a soumis une demande d'adhésion au bloc des pays émergents des BRICS, a annoncé mardi le porte-parole du parti au pouvoir. La Turquie a des relations parfois tendues avec ses alliés occidentaux au sein de l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Notre président a plusieurs fois affirmé que nous voulions devenir membres des BRICS. Le processus est en cours, a affirmé Omer Selik, le porte-parole du Parti de la Justice et du Développement, AKP, islamo-conservateur, du président Recep Tayyip Erdogan. S'il y a des développements concrets concernant notre adhésion aux BRICS, une décision ou une évaluation des BRICS, nous les partageons avec vous, a déclaré Omer Selik au cours d'une conférence de presse. Comptant quatre membres, Brésil, Chine, Inde et Russie, à sa création en 2009, le bloc a été rejoint par l'Afrique du Sud en 2010 et s'est élargi cette année à plusieurs autres pays émergents, dont l'Égypte et l'Iran. Nous ne considérons pas les BRICS comme une solution alternative face à toute autre structure, a affirmé en juillet le président Erdogan, dont le pays est toujours officiellement candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Les négociations d'adhésion à cette dernière, entamées en 2005, sont toutefois à l'arrêt depuis plusieurs années. Avec les relations avec l'UE, s'étant fortement dégradée après une tentative de putsch en Turquie en juillet 2016, suivi de purges massives. La Turquie, qui a maintenu des relations étroites avec Moscou malgré l'offensive russe en Ukraine, est le seul candidat à l'UE et le seul membre de l'OTAN à avoir frappé à la porte de ce club regroupant les principaux pays émergents qui doit se réunir au sommet en octobre à Kazan, en Russie. Mercredi, le président chinois Xi Jinping a accueilli les dirigeants africains à Pékin pour un sommet majeur du Forum sur la coopération sino-africaine. Ce rendez-vous de trois jours vise à renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique à un moment où les tensions avec l'Occident se multiplient. Plus de 50 dirigeants africains sont présents pour discuter de coopération dans des domaines clés comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation, essentielles au développement du continent. Voici Africa News.
À Pékin, le président chinois Xi Jinping reçoit en grande pompe les dirigeants africains. Ce sommet international de trois jours réunit les dirigeants d'une cinquantaine de pays africains. L'objectif, discuter de l'avenir de la coopération sino-africaine. Avec le président chinois, ils aborderont des sujets majeurs comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation, des domaines jugés essentiels pour le développement des pays africains. Pour l'ouverture du sommet, Xi Jinping et son épouse ont organisé un banquet au grand hall du peuple, au cœur de Pékin. Depuis, des réunions bilatérales ont eu lieu entre le président chinois et plusieurs chefs d'État africains, comme ceux d'Afrique du Sud, de Djibouti et du Cameroun. Cet événement marque un moment stratégique pour la Chine, qui cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique, alors que les tensions avec l'Occident s'accentuent. La Chine, premier partenaire commercial et investisseur en Afrique, souhaite renforcer sa présence sur le continent. Cette stratégie vise aussi à contrer l'influence des États-Unis et de l'Europe dans les régions en développement, et notamment dans le sud global.
À l'antenne de France 24, l'anthropologue et historien Emmanuel Todd revient sur l'actualité internationale, déclare que la Russie gagne la guerre et l'Europe implose. L'intellectuel français et auteur du livre intitulé « La défaite de l'Occident » a dit que les États-Unis sont mis en difficulté par certains de leurs alliés, notamment Israël et l'Ukraine. Voici Emmanuel Todd.
Personnellement, j'ai tendance à percevoir la question israélienne comme assez... périphérique à la dynamique de l'Occident. Il est clair que l'État d'Israël entraîne les États-Unis dans des difficultés supplémentaires, puisque...
Les États-Unis étaient déjà tombés dans le piège ukrainien, oui, c'est la fin de votre dernier États-Unis, livre, mais il y a le piège israélien maintenant.
Oui, les États-Unis semblent avoir cet art de se fabriquer des alliés qu'ils radicalisent, les nationalistes ukrainiens ou Israël, dans sa phase récente, mais ses alliés finissent par prendre leur autonomie et aller tellement loin qu'ils mettent les États-Unis en difficulté. Et donc, en l'occurrence, Israël a assuré l'alignement de tous les pays du monde musulman derrière la Russie, ce qui n'est pas une affaire. Et la question israélienne est quand même, bon, elle est insoluble, et je pense, je m'arrêterai là, parce que c'est un sujet qui m'est personnellement pénible, je pense qu'on est au début des choses pénibles. C'est-à-dire, il y a une dynamique de la société israélienne qui va nous entraîner plus loin, puisque les gens raisonnables en Israël émigrent, et les gens qui font leur alia, qui vont en Israël maintenant, sont des gens qui y vont parce que cet Israël radicalisé leur convient. Donc en fait, il y a une dynamique de la violence qui va continuer d'augmenter.
Une dynamique d'échec des civilisations.
Mais la capacité d'intervention de la France est réduite par son industrie déficiente. Je dirais que la France devient importante maintenant qu'elle s'effondre.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que, vous savez, quand on regardait les attentes des géopoliticiens occidentaux sur la guerre d'Ukraine, on attendait d'une politique de sanctions qu'elle mette la Russie à bas. Bon, l'économie russe va très bien, ils ont très peu de chômage, les inégalités baissent en Russie, les salaires ouvriers augmentent, le régime est complètement stable. Mais
à quel prix ?
Comment ?
À quel prix ?
Ça n'est pas à moi de juger. Moi, je suis historien. Là, j'ai pas du tout. Le problème, c'est le principe de réalité. Et les gens ne semblent pas se rendre compte ici qu'une bonne partie de nos difficultés, en France, en Angleterre, en Allemagne, bon, en Allemagne, ça va être la poussée de l'extrême droite, en Allemagne de l'Est. En Angleterre, ça va être les émeutes urbaines.
On va y revenir aussi.
Voilà. En France, ça va être une paralysie gouvernementale. Et les gens ne semblent pas se rendre compte de ce que ça a un rapport avec la paralysie des économies européennes qui résulte assez largement de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés qui sont mises en état de stress et de rupture par les sanctions, c'est les sociétés européennes.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous concluons ce Radio-Journal. L'équipe de nouvelles vous remercie encore une fois de votre fidélité. La coordination a été assurée par Ismaïl Bonigaba et la réalisation par Jean-Claude Tranquille. À la présentation, c'était Arlette Josué et Valérie Montreuil. Nous vous souhaitons une agréable journée.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achat de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on parle à l'autre, n'a pas connu qui s'appuie beaucoup nous. C'est pour ça, M. Suzy Jean, là, oui. M. Suzy Jean, d'auteur, à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854.
C'est vrai que je redescends. Mais on dit que c'est doux, elle a jamais l'amour. Mais les piquets, c'est pas compliqué. Mais pour toi, y'a